Secrets de plantes, une chronique à la rencontre des plantes sauvages en montagne par Lionel Scaturo et Cyril Bouvet pour apprendre à les découvrir, les identifier, les cueillir et les utiliser.
Eh bien, bonjour Lionel.
Bonjour Cyril.
Alors aujourd'hui, on vous invite à partir en balade à la rencontre des plantes sauvages. Et nous allons monter à l'étage subalpin, c'est-à-dire cet étage qui se trouve environ entre 1400 et 2200 mètres, qui est l'étage au-dessus de l'étage montagnard. Et donc nous allons à la rencontre du roi des montagnes. Qui est ce roi des montagnes, Lionel ?
Eh bien, c'est le mélèze, de son petit nom latin, Larix decidua. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle le roi des montagnes ? Parce qu'il peut pousser jusqu'à près de 3000 mètres d'altitude, vivre jusqu'à 1000 ans et mesurer 50 mètres de haut. Rien que ça.
Eh bien, que des records.
Je crois, ouais.
Et finalement, il ressemble à quoi alors cet arbre, si tu peux un peu nous le décrire ?
Alors moi, comment est-ce que je le repère facilement et rapidement ? Tout simplement, le premier détail, ce sera qu'il aura des aiguilles toutes douces. C'est le seul conifère à avoir des aiguilles aussi douces. Sa couleur sera plutôt vert tendre au printemps, qui va foncer un petit peu avec le temps. Ensuite, à l'automne, dès l'automne en fait, ou printemps, dès que le froid va s'installer, il va perdre ses aiguilles. Pareil, dans nos régions, c'est le seul conifère qui perd ses aiguilles. Donc il va se retrouver tout nu. Ensuite, ses feuilles, ses aiguilles seront réunies par un petit bouquet de 20 à 40. Chez les conifères, quand on parle de fleurs, on va parler de cônes. Les cônes femelles, ce sont en fait les fleurs des conifères. Les cônes femelles du mélèze seront rouges violacées et mesureront à peu près 2 à 4 cm de long. Ça, ce sera donc assez tôt en saison. On va parler plutôt d'avril-mai, on va pouvoir trouver cette couleur de cône en avril, d'avril à mai. Ensuite, les cônes vont tout simplement brunir. Attention à ne pas le confondre avec d'autres arbres. Et pour ça, en fait, les autres conifères qu'on pourra croiser avec le mélèze seront les épicéas, les sapins blancs, éventuellement les cèdres de l'Atlas. Mais en fait, tous ont des aiguilles dures. Donc, il n'y a pas de crainte, il suffit de toucher une branche pour se rendre compte que les aiguilles sont toutes douces et il n'y a pas de confusion possible. Maintenant, Cyril, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'écologie de cet arbre ?
Et oui, donc, comme je le disais, donc, c'est un arbre typique de l'étage subalpin qui va être souvent accompagné d'un autre conifère, le pin sambro, qu'on retrouve beaucoup dans les Alpes centrales. Et puis, donc, de temps en temps, on peut le retrouver aussi à l'étage montagnard, plus bas, mais vraiment, son lieu de prédilection, c'est vraiment en altitude à l'étage subalpin. Et puis, donc, il va former des magnifiques forêts qu'on appelle les mélézins, qui sont des forêts très lumineuses. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc, le mélèze, c'est une espèce de lumière qui aime plutôt l'air sec et qui craint l'humidité. Il a un enracinement assez profond. Et puis, donc, le fait qu'il perde ses aiguilles et notamment qu'il ait des branches très souples, ça lui donne vraiment une capacité d'adaptation au climat montagnard. Et notamment, ça va lui permettre d'avoir une grande économie d'eau. Il a aussi une moins grande prise à la neige et une bonne résistance au vent, ce qui fait qu'il a ses fameux records d'altitude.
Tu pourrais un peu nous parler des insectes et de la faune qui entoure ces arbres ?
Ouais, je peux vous dire aussi un petit peu, notamment qu'il y a de nombreux oiseaux forestiers d'altitude qui nichent dans ces forêts, ces mélézins, notamment le casse-noix moucheté, le pipite des arbres, le merle à plastron ou
le
encore...
Le pipite des arbres.
Le pipite.
Ah, le pipite des arbres.
Le pipite des arbres,
ouais. Je ne sais pas celui-là.
Et puis aussi le bouvreuil pivoine, et puis d'autres... tous ces oiseaux assez emblématiques de la montagne. Et puis, il y a aussi une flore alpine qui est inféodée à ces forêts de mélèze. Notamment, on pourra y retrouver les rêles rouges, le lys martagon ou encore la gentiane ponctuée. Et puis, on va aussi des fois retrouver un miel de forêt typique des mélézins qui va faire un miel assez brun, qui est en fait du miela. Donc, c'est un miel qui est fait à partir de l'excrétion d'insectes suceurs de sève et donc que les abeilles vont butiner donc, sur les aiguilles de ces arbres. Donc, on va trouver un miel de forêt typique en fait. Et puis alors, Lionel, qu'est-ce que tu peux nous dire aussi sur la cueillette? Comment cueillir certaines parties du mélèze?
Alors moi, j'adore le mélèze. Surtout, ce que j'aime, ce sont les jeunes pousses ou les jeunes cônes femelles. Ce qu'il y a de bien, c'est que les jeunes pousses, on va pouvoir les récolter de mars à juin, donc ça c'est top. Mais les jeunes cônes femelles, qui sont un petit peu plus puissants en goût, eux, on peut les cueillir d'avril à mai, donc c'est un petit peu plus court. Bon, après, si on veut, on peut récupérer aussi les bourgeons, la résine, les aiguilles, le bois, enfin, il y a plein de choses à prendre. Aujourd'hui, je vais vous donner une petite recette de gelée de mélèze réalisée avec des jeunes cônes femelles. Alors, il suffit de faire infuser 60 g de jeunes cônes femelles. On pourrait éventuellement utiliser des jeunes pousses aussi. Donc, on fait infuser tout ça dans un litre d'eau pendant une heure. Ensuite, on filtre. Au bout d'une heure, ça refroidit. On rajoute 800 g de sucre, 4 g d'agar-agar. On porte à ébullition. On laisse bouillir pendant 2 minutes. On coupe le feu et on met ça en bocaux. C'est super bon.
Ce qui est bien,
c'est... C'est top. Là-dedans, donc, OK, on parle du goût, mais en fait, on n'a pas que ça. Est-ce que tu pourrais nous dire, Cyril, un petit peu les bienfaits du mélèze?
Eh bien oui, donc déjà, au niveau de ses constituants, les aiguilles vont être riches en huile essentielle à monoterpènes et aussi en vitamine C. Donc il y a assez peu d'informations sur les constituants de cet arbre, mais déjà là on a des bons éléments. Et puis donc au niveau des vertus médicinales, pas mal de choses pour le mélèze. Donc déjà on va utiliser sa résine. Donc dans le Dauphiné, où l'arbre est très présent, on va appeler ça le bijouin, qui est en fait une panacée par les montagnards qui est récupérée sur l'arbre en faisant une incision. Alors c'est quelque chose qui est beaucoup moins fréquent qu'avant. On appelle ça le gemmage, notamment aussi dans d'autres régions comme en Autriche, on faisait plutôt un trou qui permettait de un petit peu mieux respecter l'arbre. Mais notamment avec cette résine, ils fabriquaient ce qu'ils appelaient autrefois le baume de Venise. En fait, c'est un baume à base de cire d'abeille et de résine et qui est une pommade vulnéraire, désinfectante et antiseptique, qui était vraiment utilisée par les montagnards pour de nombreuses choses. Ensuite, on va utiliser aussi ces aiguilles, donc ça sera en tisane ou en inhalation. Donc là, ça a des vertus expectorantes, respiratoires. Et puis son huile essentielle qui n'est pas courante, qu'on peut aussi trouver et qui va être vraiment très intéressante en diffusion, en massage ou en inhalation. Et donc là, elle va être assainissante, elle va être décongestionnante respiratoire, et puis aussi elle est neurotonique et antivirale. Donc là, on peut l'utiliser en cas de fatigue nerveuse, de stress, aussi en cas de besoin de relaxation profonde ou d'affection hivernale.
Cyril, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ces usages agricoles à ce mélèze?
Oui, alors les mélézins ont été façonnés par les montagnards et les sylviculteurs et les bergers. Donc quand on voit ces beaux espaces, ces belles forêts qui sont assez lumineuses et ouvertes, souvent elles étaient donc cultivées, elles étaient entretenues, notamment pour la production de bois, pour en faire des parcours à moutons, pour la production de fourrage, ou encore pour récolter la résine pour notamment en faire des vernis.
Ok, d'accord, mais donc on récoltait la résine, on récoltait le bois, et effectivement, moi, j'ai ouï dire que son bois était imputrescible, donc de classe 3 pour les professionnels du bois, ça doit leur parler, c'est ce qu'on appelle du bois d'extérieur, on l'a longtemps utilisé, on l'utilise toujours pour faire des constructions de maisons, de terrasses et fabrication de tonneaux. C'est aussi un très joli bois d'ornement. Et on n'en ferait pas peut-être un petit peu, on ferait pas de la sylvothérapie, dis-moi, avec ces forêts de mélèze?
Ben oui, c'est vrai que c'est quand même des espaces assez particuliers qui sont quand même attirants, accueillants. Et donc en sylvothérapie, notamment quand on veut en faire, quand on veut utiliser les arbres, faire des bains de forêt, donc c'est quelque chose qui se développe beaucoup. On sait que l'arbre et la forêt ont des incidences sur notre bien-être, sur notre santé. Et notamment, donc, le mélèze, c'est un arbre gracieux, léger, vraiment, on va dire, flamboyant à l'automne avec ses couleurs vives et jaunes. Eh bien, c'est un arbre et une forêt qui va être, qui est symbole de persévérance, qui est symbole de force, de ressourcement. Et puis elle a des vraies vertus physiques relaxantes, assainissantes, respiratoires et aussi tonifiantes. Donc ne pas hésiter à y passer du temps et à aller se balader dans ces mélèzes.
Moi j'adore me retrouver dans des forêts de mélèzes.
Oui, c'est vrai que c'est...
j'adore
cette arbre. Moi aussi, j'aime beaucoup. Et alors, aurais-tu un petit clin d'œil à nous faire, Lionel ?
Tout à l'heure, tu parlais du fait que le mélèze était résistant au froid jusqu'à moins 60 degrés. Et en fait, il est résistant au froid à ces températures-là grâce à son écorce qui est très épaisse. Mais cette écorce va aussi le protéger de la chaleur et notamment des incendies. Donc, on a un mélèze super résistant, que ce soit au froid ou au très très chaud. Voilà, c'est quelques explications sur le mélèze. J'espère que vous en aurez appris beaucoup. Nous vous laissons avec Cyril pour une prochaine chronique qui arrivera très vite. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
À bientôt, Cyril.
Retrouvez toutes ces informations dans leur livre « Le guide des plantes sauvages en montagne » paru chez Terre Vivante.